Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. C'est bien le suspense, ça permet de rester éveillé. Tiens, par exemple, aujourd'hui, vous le savez, c'est dans quelques instants, donc dans quelques secondes même, que va vous être révélé le nom du lauréat du prix BD Fnac France Inter. Et je sais que la France entière, enfin disons la France interienne, est suspendue à mes lèvres. Et pourtant, croyez-moi, j'ai passé l'âge de suspendre quoi que ce soit à mes lèvres. En attendant que je me décide à lâcher le nom du ou de la lauréat qui est pourtant assis en face de moi. Et je dois avouer que ce n'est pas désagréable d'être dans ce genre de situation, à vous faire lanterner un peu, et en sachant qu'une fois lâché, le nom que je m'apprête à révéler va déclencher à la fois une liesse débridée, peut-être même une manifestation spontanée dans les rues de nos villes, en respectant bien sûr les gestes barrières, et un accablement bien compréhensif de la part des autres finalistes qui seront passés, mais à ça de la victoire. Et ce moment, je pourrais le faire durer à volonté si j'étais encore plus cruel que la réputation que l'on me prête, mais je n'en ferai rien. Non, c'est pas mon genre. Oh, j'en connais qui ferait encore un peu durer le plaisir, à la limite de l'abus de pouvoir, ivre de cette folle impression de puissance que donne le savoir vis-à-vis de tous ceux comme vous qui rêvent d'apprendre. Oui, je pourrais, si je le voulais, mais je sais bien qu'à votre place, je serais là, devant mon poste, à maugréer. Mais il va la cracher, sa valda, ce connard. Et comme je ne fais pas ce métier pour me faire insulter, enfin pas que, je vais vous le dire, le nom du lauréat du prix BD Fnac France Inter 2022, seulement la BD élue au suffrage populaire, fnacien et interien, et c'est...
And the winner is...
Xavier Coste pour 1984 aux éditions Sarbacane. Eh oui, c'est la fête et bonjour. Bonjour et bravo Xavier, parce que vous êtes là, vous êtes matérialisé à l'instant même où j'annonçais votre nom.
Bonjour, oui, je passais par hasard à la maison de la radio, je me suis dit que c'était mon jour et j'ai bien fait de venir.
Bonjour Xavier, alors Xavier, vous êtes donc le lauréat du prix BD Fnac France Inter et comme je suis le parrain de ce prix, votre première prise de parole va avoir lieu ici. Alors quels sont vos premiers mots? Aucune pression, je vous rassure, nous ne sommes que sur la première radio de France bien sûr.
Ouais. Déjà j'arrive toujours pas à réaliser et puis je pense que je vais pouvoir reprendre une vie sociale. Est-ce que j'ai appris il y a quelques semaines pour le prix, mais j'étais censé garder ça pour moi. Donc du coup, j'ai limité tous mes contacts. Vraiment, c'est encore plus de gestes barrières que d'habitude.
C'est vraiment donc garder le silence.
Ouais, vraiment.
C'est vrai, vous avez réussi.
Ça a été très dur. Été très dur et il y a eu des disparitions inquiétantes aussi dans mon voisinage. des gens qui en savaient trop et bon.
Bon, à la place du célèbre gift bag des Oscars, hein, qui contient à peu près 200 000 dollars de cadeaux, nous offrons cette plaque en plexi et un pins transparent avec la voix de Laurence Bloch, notre chère directrice qui est venue vous féliciter il y a quelques secondes. Heureux.
Ah oui, non, mais je mesure la chance que j'ai aujourd'hui parce que, en plus, comme je vous le disais hors antenne, mon album est sorti le 6 janvier 2021, donc il y a un an jour pour jour. Et aujourd'hui, c'est assez incroyable d'avoir un album qui dure dans le temps et fêter les 1 an du livre avec un prix pareil, enfin, c'est inimaginable.
Bien. Question un peu indiscrète, mais qu'allez-vous faire de cette avalanche de cadeaux là qui vient de vous tomber dessus?
Eh ben, je vais complètement arrêter l'art, la BD et je vais faire des placements immobiliers, voilà, grâce aux royalties.
Très heureuse initiative, Xavier Coste. Et comme vous êtes le lauréat, je vous propose comme premier morceau, un extrait du lauréat, le film Mrs. Robinson. C'est Simon et Garfunkel, évidemment.
Look around you, all you see are simple.
Garfunkel, Mrs. Robinson, c'est un morceau extrait de The Graduate, le lauréat pour le lauréat du prix BD Fnac France Inter, Xavier Coste. Alors Xavier, quand on porte le nom d'un hôtel célèbre, et par extension le nom des célèbres compilations de ce même hôtel, cette musique lounge là, est-ce qu'on est sensible à la musique ?
Eh bien, figurez-vous qu'il manque un S à la fin de Coste.
Mais
donc,
oui.
Du coup.
Pour faire de vous un héritier.
Voilà.
Complet.
Du coup, j'étais obligé de travailler tout seul. Donc, faire la bande dessinée. Et bizarrement, la musique, moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Mais je pense que c'est vraiment le domaine dans lequel j'excelle le moins, pour être poli. Et je pense que j'y suis d'autant plus sensible que je suis très mauvais.
Alors vous y êtes sensible et votre travail donne aux musiciens envie de composer à l'image d'un compositeur qui s'appelle Ila Osokin et qui a lu votre BD et qui a eu envie de composer une bande originale pour celui-ci, Ambiance. Musique inspirée donc à Ila Osokin, un jeune compositeur, par votre ouvrage, votre interprétation à vous de 1984. C'est une BO maintenant, pour que la boucle se boucle, que vous conseillez d'écouter en lisant votre bande dessinée.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que le compositeur m'a fait un magnifique cadeau. Donc il m'a contacté après avoir lu l'album, ça lui avait évoqué ces notes-là. Et ce qui est drôle et frappant, c'est qu'il a été influencé par les mêmes bandes originales de films que moi pendant que je réalisais l'album. Et c'est vrai que c'est une voie que j'ai envie d'explorer, de mêler dessin et musique. Et je pense qu'on va être amené justement avec Ilya Osokin à travailler sur un livre, sur un projet hybride justement comme ça qui mêle musique et image.
Ouais. Ça veut dire que d'une manière générale, la musique vous inspire pour travailler ?
Ouais, pour moi c'est indispensable. Ça permet, je trouve, de se mettre dans un état second. Et en fait, je trouve qu'on n'est jamais meilleur dessinateur que quand on oublie qu'on dessine. En fait, et il faut essayer de retrouver ce plaisir d'enfant à dessiner librement, sans contrainte. Et quand je fais un album comme 1984, en fait, pendant 3 ans, tous les jours, je suis obligé de m'astreindre à des heures. En fait,
ouais.
J'aime pas trop ce terme-là, mais vraiment une discipline. Et c'est vrai qu'il faut arriver à trouver un rythme. Qui fait qu'on accepte ce marathon avec sérénité, et la musique m'aide énormément pour ça.
Alors la musique vous inspire pour travailler, votre travail inspire à son tour de la musique, la boucle est bouclée, comme dirait Franck Provost, qui risque justement de se faire boucler à son tour bientôt. Votre dessin est-il différent selon la musique que vous écoutez ? Par exemple, si vous écoutez du Rammstein ? Ou bien du Chopin ? Est-ce que le trait change ?
Ben, c'est une excellente question, et en fait je réalise avec votre question, et ça montre à quel point vous êtes un bon intervieweur, qu'en fait j'écoute toujours le même genre de musique, donc je ne sais pas vous répondre, et je pense que j'écoute ce genre de musique qui mêle à la fois mélancolie et grandes envolées, justement parce que c'est ce que j'essaye d'avoir dans mon dessin, quelque chose de précis et de flou à la fois. Mais effectivement, ça reste toujours le même genre de musique. Vous ne me verrez jamais dans l'obscurité de mon atelier en train d'écouter Claude François, par exemple.
Ou la danse des canards. Non, j'imagine pas ça en 1984. Alors que c'était pas très loin de l'époque, justement. Bon, comme je sais tout, je sais que pendant la réalisation de cet album, 1984, vous avez écouté Woodkid, et en particulier ce morceau. I know I'm not made in your likeness. You're not made for my dark. In Your Likeness de Woodkid, on peut dire que c'est le bon mix entre Rammstein et le piano classique.
Je connais absolument pas Rammstein. En fait, c'est ça qui est affreux, c'est que j'ai beau avoir 32 ans, j'ai la culture musicale d'un homme de 90 ans.
Et Woodkid, à qui vous aviez pourtant envoyé les dessins de 1984, il y a déjà une dizaine d'années, quand vous étiez en train de travailler sur ce projet, et vous l'avez appelé pour lui dire que vous étiez lauréat du prix BD Fnac France Inter, ou pas ?
Eh bien, pas encore, parce que c'était censé être secret jusqu'à maintenant.
Oui, il l'a appris en même temps que tout le monde.
J'ai reçu un message très mignon après l'émission, il y a un an, justement, ouais. d'une amie de sa mère qui lui a transmis l'émission et...
Et voilà, le contact est fait. En dehors de la musique, vos inspirations sont aussi plus directement graphiques, puisque vous avez consacré un album au peintre autrichien Egon Schiele. C'est une biographie semi-réaliste, dites-vous, de cet ouvrage-là. Ça veut dire semi-fantaisiste aussi ?
C'était semi-romancé, en fait. Effectivement, je m'intéresse beaucoup aux biographies et aux peintres, notamment Egon Schiele. Et c'est un peintre qui m'intéressait pas forcément pour faire un livre, mais ça m'intéressait. Et j'ai découvert qu'il y avait très peu de livres sur lui. On connaît sa vie uniquement dans les grandes lignes.
Ouais.
Et c'est en ça que c'est semi-réaliste. C'est que du coup, j'ai essayé de combler les vides en
les imaginant.
Exactement. Et puis en essayant aussi, je pense que c'est ça qui est intéressant avec les biographies, de mettre son propre vécu, son propre bagage... dans une enveloppe qui n'est pas la nôtre. Mmh. C'est-à-dire que Egon Schiele a une carrière fulgurante. Il est mort à 28 ans, je pensais qu'il était mort plus vieux. Mais il y a des scènes dans mon album où, par exemple, il discute avec des galeristes et c'est des discussions que j'ai eues avec des éditeurs. Ouais. Et ça, je trouve que c'est intéressant, ça permet de donner de la véracité.
Mais vous avez aussi dessiné une biographie de Rimbaud, musique, poésie, roman. On a l'impression que vous invitez dans la BD les autres arts. Est-ce que c'est pour mieux les faire découvrir ou une sorte de traduction graphique de la manière dont vous ressentez les choses?
Oui, je pense que j'ai besoin effectivement de partir de quelque chose qui existe déjà et de l'amener vers autre chose. C'est ce qui m'intéresse le plus. J'ai beaucoup de collègues dessinateurs justement qui aiment bien partir d'une page blanche pour inventer complètement quelque chose. Et moi, j'aime dériver, j'aime partir d'un point A et en faire tout autre chose. Et même avec 84, en fait, j'ai voulu respecter le texte, mais graphiquement, m'éloigner des descriptions qui étaient faites par Orwell et des adaptations qui existaient déjà, quoi. C'est toujours le même processus chez moi.
Car oui, nous parlons bien de 1984, la BD de Xavier Coste, éditée chez Sarbacane, et qui vient donc d'être couronnée du prix très prestigieux Fnac France Inter, du prix BD. Alors vous avez toujours lu et dessiné de la BD, vous n'êtes jamais posé la question de savoir si vous feriez autre chose. La vraie interrogation, en fait, c'était quand ? Quand est-ce que vous allez pouvoir vous y mettre ? Est-ce que vous pensiez un jour être récompensé pour votre travail ?
C'est vrai que je ne me suis jamais demandé si j'allais faire autre chose, mais à tel point que ça devenait flippant, parce que je trouve ça important d'en parler. Ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que je fais de la bande dessinée, et ces dernières années, mes derniers livres n'avaient pas eu l'accueil espéré. Et honnêtement, quand je travaillais sur 1984, je me revois encore dire à mon éditeur que pour moi, c'était le livre de la dernière chance. Mmh. J'y croyais plus. Comme je disais en début d'émission, les livres ont une durée de vie très courte. Oui. Ça m'est arrivé de passer 2 ans sur un livre qui reste en librairie pendant 15 jours, 1 mois, et ça, c'est assez déstabilisant. Oui. Et là, c'est vrai que c'est une satisfaction énorme d'avoir une récompense comme celle-ci. Et je pense malheureusement que vous avez nourri la bête. C'est-à-dire que si vous ne m'aviez pas remis le prix, j'aurais certainement abandonné la bande dessinée. Et là, je vais continuer jusqu'à la retraite.
Eh bien, écoutez, une récompense bien méritée, mon cher Xavier. Vous repartez, je le rappelle, avec le prix BD Fnac France Inter et le pins parlant de Laurence Bloch pour 1984, votre adaptation de George Orwell en BD, dont nous allons parler avec Charline Roux juste après. Naturopathe, c'est un morceau du chanteur islandais Sega Bodega, featuring Charlotte Gainsbourg.
Sans mes jours en mer, tant sors ma bille pour que cette arnaque tourne à l'idylle. Tout d'autres empile avec des huiles. Elle te gêne bien, la savane. Allô, docteur, je veux voir ailleurs. Un somnifère, je m'envoie en l'air.
So offer me a pill. Set free from this hell. Your body's at the wheel. I'm keeping you unwell. I am the only one with medicine correct. The treatment has begun, slowly taking effect.
C'est sans espoir, je vais me faire avoir. Mon gros, c'est l'arme, ma pute en dehors. Ces théories seront analysées. Ils préconisent deux, trois diagnoses. Je veux y croire, toi tu te marques. Qu'est-ce qu'il a dit, l'autre l'érudit? Que je dors tranquille avec mes huiles. Toi tu m'emboules, bon, t'es casse-couille. Tant pis, je vais me faire avoir. Vous êtes pas rapineur. Je vide mon sac, ma pile.
Inter. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
Eh oui, c'est Charlie Drew qui arrive parmi nous sur son hoverboard de Retour vers le futur. Elle est, c'est là-dessus qu'elle a décidé de faire son entrée. Bonjour Charline. Faudra penser à graisser un peu la machine quand même.
C'est pas mon hoverboard, c'est ma hanche. Je vous remercie de vous arrêter tout de suite. Bonjour.
Bon, Charline, Xavier Charline.
Enchanté.
Direction 1984. Ou presque.
Bienvenue dans une Angleterre uchronique qui n'est pas sans rappeler la guerre froide. Winston est un employé ordinaire et comme chaque employé ordinaire, il est surveillé par des caméras, des espions, des voisins. Sa mission, la réécriture de l'histoire. Mais Winston sent confusément que quelque chose ne va pas dans ce monde et un jour il rencontre Julia. Raconté comme ça, ça pourrait être une comédie romantique, mais non. L'uchronie, la dystopie sont aujourd'hui légion dans les fictions. Xavier Cosse, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? Besoin de réalité parallèle ou bien au contraire, c'est encore un excellent moyen de parler du présent?
Bah oui, j'allais vous le dire, c'est un moyen de disséquer les mots du présent et sans avoir une lourdeur et aussi sans donner une temporalité trop importante à un album. Et c'est vrai que quand j'ai terminé mon adaptation de 84, on était au premier confinement et j'étais tenté de rajouter des scènes qui faisaient écho à l'actualité. Et je trouve que ça fait perdre du corps et de la puissance aux histoires, justement. C'est cette intemporalité-là qui est intéressante à aller creuser. Et c'est vrai que moi, je suis pas insensible, par exemple, avec la gestion actuelle de la pandémie. Mais d'un autre côté, je veux dire, ça ne regarde que moi. J'ai pas envie d'être moralisateur dans mes livres. Et je trouve ça important que l'auteur ait ses propres opinions et puisse faire une œuvre qui soit détachée de ça, quoi.
Ouais. Alors Xavier Cosse, nous avions parlé ensemble de 1984 en 2021, au moment de la sortie de votre livre. Alors pas 1984, parce que je rappelle que ça c'est le roman de George Orwell, mais de votre BD qui s'appelle elle aussi 1984, et c'est bien normal car c'est une adaptation de 1984. 1984 qui a été publié en 1949. Vous me suivez?
Reprenons donc par le début. Peut-être,
bah, je vous en
si
prie,
ça
Charline,
vous va.
Allez-y.
1984, le
je
roman
vais
fait.
Votre hoverboard pendant ce temps-là. Allez-y.
Allez-y. Le roman fait environ 384 pages. Les sources divergent. Hein. Nous avons l'avantage ici de pouvoir les croiser. C'est quand même chouette. Certes, votre bande dessinée est bien épaisse, mais comment est-ce qu'on choisit tout en restant très fidèle au texte?
J'avais toujours à côté de moi le roman en version originale, en anglais. J'ai retraduit justement pour essayer d'être le plus fidèle possible au texte d'Orwell. Et ensuite, j'ai pris vraiment une pince à épiler. J'ai sélectionné chaque mot d'Orwell que j'ai disposé sur la planche. Et en fait, le jeu pour moi, c'était de supprimer le plus de texte possible. C'est que je me suis aperçu que quand mon dessin incarnait les mots d'Orwell, c'était pas la peine d'avoir les deux parce que c'est une adaptation. C'est pas un roman avec des dessins en plus. Et il faut pas non plus dévaloriser le texte qui est la matière première, qui en plus en l'occurrence est extraordinaire. Donc c'est vrai que c'est un jeu d'équilibriste. Et qui peut rendre fou en fait, parce que pendant 3 ans, moi j'ai le chemin de fer de mon album, je vois mon album déplié dans mon esprit et je réfléchis à toutes mes séquences comme c'était une partition musicale.
Et vous avez cependant pris la liberté d'échanger les bleus de travail contre des costumes, est-ce qu'on serait donc passé dans une ère plus technocratique?
Bah, complètement, et c'est vrai que pour moi, un monde effrayant, c'est, ça peut être plus la défense à 8h du matin que les temps modernes de Charlie Chaplin.
Dans 1984, la société de la surveillance est à la fois subie et ignorée par les citoyens, ou plutôt les camarades, mais aujourd'hui tout le monde est au courant du risque d'être contrôlé et surveillé par des grandes entreprises ou des gouvernements. C'est nous-mêmes d'ailleurs qui donnons la plupart des infos qui nous concernent sur les réseaux sociaux, notamment, et nous le faisons, j'allais dire, librement. En fait, c'est très différent du totalitarisme évoqué par Orwell.
Pour moi, il y a deux choses. Et c'est vrai que Orwell nous a présenté le totalitarisme dans sa version la plus puissante. En fait, il a mis le curseur au maximum. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'à tous les niveaux, en fait, on a baissé la garde sur nos libertés individuelles. Et c'est vrai que j'ai notamment beaucoup d'amis autour de moi qui, justement, étaient contre les réseaux sociaux, les applications, les téléphones, etc. Et en fait, aujourd'hui, quand je les vois, ils sont toujours en train de valider tout sur leur téléphone parce qu'ils ont fini par céder,
par y venir, ouais.
Par céder à Facebook et par y venir. Et je trouve que petit à petit, on a tendance toujours à laisser la porte ouverte à plein de choses qui sont assez phénoménal.
Mais par exemple, vous n'avez pas eu l'impression, en vous approchant de la maison de la radio, cette magnifique bâtisse ronde, là, de voir le ministère de l'Abondance de 1984, tel que vous l'avez dessiné.
Alors, curieusement, j'ai plutôt regardé les bâtiments autour, parce que il y a beaucoup de bâtiments brutalistes en face de la maison de la radio. Ouais. Et depuis que j'ai fait mon adaptation, justement, je ne vois que ça, en fait. Justement, je vois des éléments architecturaux qui incarneraient un totalitarisme. Mais j'ai pris quelques photos, effectivement, la façade de la maison de la radio. On retrouvera peut-être dans un futur album.
Xavier Coste, vous aviez ce projet en tête depuis une bonne quinzaine d'années. Une fois le projet acté, il vous a fallu 3 ans pour le terminer, vous le disiez. Et une fois que la BD est devenue une réalité, hop, premier confinement. Quel sentiment est-ce qu'on a quand on achève un travail sur l'enfermement, quand on est soi-même enfermé? Et d'ailleurs, même sans confinement, comment est-ce qu'on ressort de quasiment, je sais pas, 15, 18 ans à penser à un monde totalitaire?
Au niveau émotion,
ça drôle.
C'est vrai que ça a été très déstabilisant parce que j'ai eu ce projet pendant des années, mais je l'ai réalisé dans des conditions très bizarres. Déjà, j'ai eu ma fille presque un an avant la sortie du livre. Du coup, je me revois encore dessiner des pages de torture, des pages d'emprisonnement, avec et en poussant le berceau à côté, en faisant des gazouillis à mon enfant.
Comment s'appelle-t-elle, votre petite fille?
Iris. Que j'embrasse très fort.
Elle écoute son papa Iris, là.
Ben, j'espère pas.
Hein. Iris.
Non, ça veut dire qu'il s'en occupe pas très bien à la crèche, hein, s'il est fait devant la radio. Et du coup, ça déjà, c'était bizarre. Mais d'avoir un quotidien rose pour dessiner quelque chose d'assez sombre. Et ensuite, quand l'album est sorti dans la nature il y a un an, ce qui a été très déstabilisant, c'est que c'était vraiment, on naviguait à vue. Parce que déjà, on parlait que de confinement à venir. Et ça peut tuer complètement la sortie d'un bouquin. C'est que la veille de la sortie, les librairies pouvaient potentiellement fermer. Donc c'était très déstabilisant. Et ça a été ça pendant toute l'année 2021. Et finalement, mon livre a très bien poursuivi sa route. En plus, j'étais heureux finalement de pouvoir aussi faire des salons littéraires à la fin de l'année. Et là, en plus, le prix Fnac France Inter qui vient comme
couronné.
Petite cerise sur le gâteau.
Grosse cerise, énorme cerise. Ah, c'est à moi, d'accord. De cette période, vous n'avez gardé que je parle de 1984, vous n'avez gardé que l'attestation de déplacement au nom de Winston Smith. Est-ce que vous ne vouliez pas que la réalité dépasse un peu trop la fiction?
Complètement. Et puis, encore une fois, c'est vrai qu'artistiquement, je me rends compte que je n'arrive pas à sublimer ou à rendre intéressantes des choses qu'on connaît. Et j'avoue que peut-être que mon album n'aurait pas la même saveur s'il y avait des portraits de Jean Castex un peu partout.
Allez,
et encore, heureusement, c'est un livre, donc il n'y a pas l'accent chantant. Donc.
Bonjour Lassalle.
Alors justement, je vais parler à l'expert. La situation actuelle, puisqu'à la pandémie s'ajoute la pré-campagne électorale, ça n'aurait échappé à personne. Est-ce que cette période vous paraît plus orwellienne qu'au moment de la sortie de la BD?
Oui. C'est vrai que j'observe ça avec vraiment beaucoup d'inquiétude. Et pour moi, ce qu'on retrouve de 84 dans la gestion de la pandémie actuelle, c'est vraiment la parole officielle qui varie du tout au tout, suivant une quinzaine de jours. Et en fait, on est censé ne pas remarquer qu'ils avaient dit l'inverse il y a un mois. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'œuvre d'Orwell. Bien sûr, c'est un degré différent, mais pour moi, ça interroge quand même énormément.
1984, la version de Xavier Coste éditée chez Sarbacane. C'est le prix BD Fnac France Inter 2022. Et nous allons continuer à en parler dans quelques instants. Mais cette émission est réglée comme du papier à musique. Il est 16h30 et c'est l'heure des Pop News.
Et un nouveau titre pour le prolifique Josh Tillman, plus connu sous le nom de Father John Misty, multi-instrumentiste de génie et chanteur à voix d'or. Et pour le dire tout à fait simplement, c'est très beau et ça s'appelle Funny Girl.
A honey girl, your schedule's pretty crazy, doing interviews for the new live action Kathy, could you pencil in?
Funny Girl annonce un nouvel album de Father John Misty, Chloe and the Next 20th Century, attendu le 8 avril prochain. Et comme le clip qui accompagne Funny Girl est aussi très chouette, autant que la chanson, on vous le glisse sur Twitter, 3615 pop pop pop.
Des scientifiques isolés dans une base en Norvège découvrent une mystérieuse corde qui s'enfonce dans la forêt. Certains décident de la suivre. Tel est le pitch cryptique de la mini-série fantastique Arte de Dominique Rocher, tout simplement titrée « La corde » et qui rassemble Suzanne Clément, Jean-Marc Barr et Jeanne Balibar. Ambiance.
Elle était peut-être déjà là, non?
Je passe par là tous les jours, elle n'était pas là hier matin.
C'est quoi cette corde?
Do you mean you're giving up on the rope?
Well, we have followed it for several kilometers and we didn't find anything.
C'est juste une corde.
Oui, apparemment, il y a quelque chose au bout de la corde. La corde, ce sera le 27 janvier à 20h55 sur Arte et c'est déjà dispo sur arte.tv.
Une nouvelle bande-annonce pour le Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le costume. Et dans cette nouvelle bande-annonce, on le voit devisé avec Selina Kyle, autrement dit Catwoman, incarnée par Zoé Kravitz.
If we don't stand up, no one will.
You got a lot of cats.
I have a thing about strays.
The bat and the cat. It's got a nice ring.
You new friend of yours?
I'm not so sure.
The Bat and the Cat, effectivement une très belle alliance. Et oui, elle a beaucoup de chats, car ça la relaxe. On retrouvera aussi Colin Farrell dans le rôle du pingouin, Paul Dano dans celui de The Riddler. Et Batman arrivera le 2 mars dans les salles.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Alors, c'est un des chats de Catwoman, parce que vous ne pouvez pas être Catwoman par définition, Antoine.
Je suis Catman. N'étiez pas loin. Merci, Charline.
Je rêve de voir ce super-héros. Je suis Catman. Ben, ça fait peur à personne, non?
Xavier Coste. Retournons en 1984. Enfin, restons en 2022, mais continuons à parler de votre adaptation de 1984 qui vient de remporter, je le rappelle, le Grand Prix BD Fnac France Inter 2022. Alors, c'est vrai que cette période s'adaptait, là, je parle d'un autre, parfaitement au roman et l'apparition du virus. Ça fait apparaître un hashtag sur Twitter, je cite, hashtag Covid-1984 avec des messages du style « Les chiffres sont faux, les tests sont des conneries et les masques ne fonctionnent pas, résistez !» Il se dirait quoi, George Orwell, si c'était un tweetos en lisant ces posts?
Oula, j'aime pas trop m'aventurer là-dessus, faire parler les morts, c'est...
Non, alors c'est... parlez-moi vous, puisque vous avez vécu dans la compagnie de George Orwell pendant presque 15 ans de votre vie.
Ouais, ouais,
qu'est-ce
ouais.
qu'il en dirait de tout ça?
Ben je sais pas, déjà j'espère qu'il me mettrait la main sur l'épaule et qu'il me dirait écoute mec, je suis quand même fier de toi.
Bravo.
Good job.
T'es quand même face à Antoine Decaune aujourd'hui, ouais. T'as raison de prendre le melon.
Et Catman.
Et Catman avant tout.
Non mais qu'est-ce qu'il en dit? Enfin oui je sais que la question est un peu générique, mais il aurait dit ah ben...
Je pense qu'il aurait fait ça, mais plus en anglais.
I knew it.
Mais je vois ce qu'Antoine veut dire, parce qu'on a un peu l'impression que Orwell est à la politique ce que Coluche ou Desproges sont à l'humour ou à la politique quand il est question du « on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire ». C'est devenu une sorte de citation obligatoire.
Bah, c'est vrai que j'aime pas trop transposer des choses passées à l'époque actuelle, en fait, parce que si je vais le faire mentir, déjà, il va pas être content.
Il sera pas
ça
content.
Se trouve, il n'est pas content de mon album. Si en plus,
bah non, il vient de vous poser la main sur l'épaule, vous aviez. Enfin,
oui, mais c'est ça, c'est ce que j'imagine. Je sais pas. Mais ceci dit, pendant toute la réalisation de l'album, j'imaginais avoir un petit George Orwell sur l'épaule qui me fouettait qui, dans les moments de coup de mou, qui allait me chercher un café aussi.
C'est Jimmy Cricket,
hein,
comme ça. Mais je me souviens de notre conversation il y a exactement un an, vous qui aviez tendance à vous méfier vous-même des fake news et autres théories du complot. Est-ce que vous êtes encore plus parano depuis l'apparition de cet album?
Vigilant par la force des choses. Après, c'est vrai que J'ai vraiment du mal à vivre la période actuelle, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on pousse le curseur à chaque fois, on repousse nos limites, et finalement on accepte l'inacceptable. Après, je pense que l'émission n'est pas le lieu pour rentrer dans un débat politique. Ouais.
Et alors redisons-le, 1984 est graphiquement éblouissant, des personnages parfois fantomatiques, contrastant avec l'œil rouge très net qu'on voit sur la couverture. Pour la palette du jaune, du rouge, du bleu, bien froid, du gris, à quoi est-ce que correspondent ces choix esthétiques ?
Au départ, j'avais travaillé l'album en noir et blanc et on trouvait avec mon éditeur que le rendu était trop attendu. Et le fait d'avoir juste quelques nuances de couleurs, je trouve ça intéressant parce que ça permet de segmenter un livre. Et j'avais envie d'identifier certaines périodes à la fois de la temporalité et aussi certains lieux dans lesquels le personnage évolue avec ses codes couleurs. Et ça me permet aussi, tel un mini Big Brother, de m'insérer dans l'esprit du lecteur parce que en utilisant des couleurs assez fortes comme ça, j'espère qu'il se souviendra de mon album quelques jours après l'avoir lu et qu'il aura envie de le racheter, l'offrir autour de lui, d'acheter tous mes albums.
Couleurs, mais pas de vert, qui est, je le rappelle, la couleur de l'espoir.
Tout à fait.
C'est délibéré, ça ?
Eh bien, justement, en fait, ça ferait très chic si je vous disais que c'était délibéré.
Vous pouvez le dire.
Il faut savoir que je travaille au feeling, en fait. Et justement, quand je me dis, il faut que j'utilise telle couleur, parce que là, ça fera bien, face à Antoine Decaune, je dirais que j'ai regardé un dictionnaire.
Non, mais il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune, les couleurs primaires, il n'y a pas de vert.
Non, c'est ça. Ben, c'est une couleur que je n'aime pas utiliser, tout simplement.
Ah voilà, tout simplement.
Et c'est vraiment...
Je vous rappelle que c'est la couleur de l'espoir.
C'est ça. Ben, c'est plus le rouge que j'avais en tête quand j'ai fait l'album, qui est la couleur de l'affiche, mais et la couleur du logo France Inter, en fait. Ça faisait 3 ans que je ruminais dans mon coin en disant ce prix est pour moi. Donc je me suis dit, il faut que j'utilise la couleur du logo que j'ai utilisé avec la pipette, d'ailleurs, pour que ce soit le même rouge.
Bon, alors c'est aussi un objet pop, parce que c'est un très bel album qui se remarque. Il est présenté dans un format carré pour rappeler l'enfermement et se termine par un pop-up, en tous les cas dans la première version que j'avais eue moi. Alors je ne vais pas spoiler la fin, mais comment avez-vous eu l'idée de... Justement.
C'était un pop en fait. J'explique juste à nos auditeurs et auditrices qu'avec le masque, il est très compliqué de faire un pop avec la bouche.
Et j'avais besoin de l'explication alors que je suis sur place.
À votre service. Je
ne sais pas si c'est bien mieux.
Comment l'idée du pop-up au final ?
En fait, on avait envie d'avoir un objet singulier. C'est vrai que mon éditeur aime bien les livres audacieux. Et quand je lui ai parlé d'une adaptation de 1984 la première fois, il n'était pas forcément très chaud parce que lui, à première vue, adapter un roman qui est déjà un best-seller, ça l'intéresse pas s'il n'a pas la vision qu'on peut essayer de proposer un objet singulier. Et c'est vrai que dès le départ, moi, j'avais envie de faire un format carré. Ensuite, c'est posé la question de mettre quelques couleurs assez fortes. Et quand j'ai montré un crayonné de l'album, donc une première version à mon éditeur, quand il a vu la dernière image, c'est lui qui a eu l'idée devant moi. En fait, il m'a dit, ton dessin, ce serait génial s'il s'articulait en 3D, en trois dimensions, avec un pop-up papier. On sous-estimait le succès du livre, disons-le clairement. Du coup, on s'est dit, bon, parce que ça coûte très cher de faire un pop-up, on va le limiter à la première édition. Et effectivement, je me souviens, le jour de la sortie, on a eu une super chronique sur France Inter et le jour même, les gens ont suivi les conseils de France Inter et ont acheté l'album parce qu'ils avaient peur qu'ils soient en rupture de stock. Donc, c'était une prophétie autoréalisatrice. Du coup, c'est un livre qui est en version pop-up qui n'a existé que quelques semaines.
Je suis en possession d'un collecteur à la maison.
Mais oui, mais vous n'êtes pas n'importe qui.
C'est vrai.
Xavier Coste, un peu de dystopie, remontons 15 ans en arrière ou dans une dimension parallèle. Vous en êtes encore au stade de la maturation de ce 1984. Tout est à refaire. Est-ce que vous refaites tout à l'identique ?
Tout mon album ? Alors, ce qui a été intéressant, c'est que j'ai essayé de mettre de côté ce que j'avais déjà fait jusqu'à maintenant. Ça a été déstabilisant de commencer à travailler sur ce livre avec plusieurs versions que j'avais faites au fil des ans. Parce que du coup, j'avais une vision trop précise de ce que j'avais envie de faire. Donc, quand je me suis mis à travailler, en fait, il n'y avait pas de flamme. Et je pars du principe que si on ne se surprend pas soi-même quand on fait un livre, si on n'est pas surpris par le résultat, il y a de grandes chances pour que le lecteur s'ennuie aussi. Et ça m'est déjà arrivé de commencer à travailler sur un livre, de faire plusieurs planches, même des fois d'avoir un contrat. Et finalement, on peut être tenté de se dire, le projet a avancé, donc je ne vais pas faire machine arrière. Mais si je sens que le livre est moyen, ça n'a aucun intérêt. Il y a déjà une surproduction, ce n'est pas la peine de faire un bouquin si on n'y croit pas. Quoi.
Xavier Gors, le rappelions. Qu'est-ce que j'ai fait ?
Xavier Coste.
Coste, j'ai dit quoi ?
Xavier Gors.
Oui, mais ça existe aussi.
Ouais.
Xavier Coste.
Mais c'est pas lui.
Il vous a fallu 3 ans pour terminer cet album. Et vous sortez de ce travail absolument éreinté, me disiez-vous il y a un an. Enfin, vous avez bah, repris
ça,
les
ça
couleurs.
Ça se voit sûrement. Hein.
Vidé, mais avec une forme de soulagement aussi, car adapter 1984 en BD était le projet de votre vie. Pardon, mais de votre vie, vous n'avez que 32 ans, Xavier, j'ai vérifié. Vous n'allez pas quand même prendre votre retraite, là, si ?
Bah, mine de rien, c'est mon 7e album, et quand le livre est sorti, pendant un mois ou deux, honnêtement, bah, déjà, j'étais gargarisé par le succès de l'album, mais je me suis dit que cette fois-ci, j'avais plus rien à raconter, que j'aurais plus de projets, et j'ai jamais eu autant de projets que maintenant, parce que j'avais peur que ça me restreigne finalement de faire mon projet phare entre guillemets et de ne rien avoir à raconter après. Mmh. Et finalement ça m'a ouvert des portes parce que l'anticipation c'est mon genre vraiment de prédilection en tant que lecteur et ouais. En tant que spectateur de cinéma. Mais en tant qu'auteur de BD je m'étais très peu frotté et vraiment j'attendais de me confronter à 84 pour assumer pleinement en fait d'aller dans cette voie-là. Et graphiquement aussi, c'est quelque chose qui m'a surpris. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à avoir autant de plaisir à dessiner des bâtiments en béton et choses comme ça. Ouais. Et finalement, je trouve que même graphiquement, c'est assez simple de rendre des ambiances assez fortes. Et on va pas se mentir, je veux aller au plus simple. Je veux faire des albums qui marchent, vivre de mes rentes, c'est tout ce qui m'intéresse.
Très bien, bon, Xavier Coste, certes, je vous ai appelé Xavier Gorce, mais vous avez dit gargarisé, alors que vous l'ayez sans doute dire galvanisé.
Certainement.
On peut aussi se gargariser de succès.
Nous sommes tous très troublés aujourd'hui par le succès et ce prix de la BD Fnac France Inter qui a été décroché haut la main par 1984 de Xavier Coste, édité chez Sarbacane. Dans la suite de Pop Pop Pop, nous allons parler de...
Je vais t'apprendre quelque chose dont tu te souviendras toujours. Comment beurrer une biscotte sans la casser.
Maman, qu'est-ce qu'on fait ici ?
Votre père blanchit de l'argent pour un cartel de drogue mexicain.
De musique avec le groupe Dreaming of Ghosts de François Truffaut, de la série Ozark et de pop culture évidemment. Tout ça, ce sera juste après Pipe Down. C'est un morceau de Drake.
I'm working on time.
Said you belong to the streets, but the streets belong to me. It's like home to me. It's like home to me. I tatted your passport up, now it's looking like a arm sleeve. Just know that was all me.
And when you see Chanel, I wish that's how you saw me. That shit you tell Chanel, I wish that's how you call me. That raw shit, that honesty, yeah. You know I love you more than all them niggas put together. And it's a lot of niggas trust I put the list together. And it's a lot just to assume we're meant to be together. You gotta live that shit for real, you can't just say whatever. You can never tell nobody that you held me down. If it was ride or die, then you should have been there right now.
So I don't care how you're yelling at me.
How much I gotta spend for you to pipe down? How deep I gotta dig for you to pipe down? All the things I've done up until right now. I need 1,000 pages just to write it down. Writing down these feelings, it's been overdue. Don't know how many pens it's gonna take to get over you. How much I gotta pen for you to pipe down? How deep I gotta dig for you to pipe down?
Tried to run it back 100 times. The world is yours, but the city's mine. Can't believe you put it on your mother's life. Can't believe you told me it was ride or die. Cause you're not here somehow, you're still alive. True enough, I knew you from the other side. I set my expectations way too high.
Yeah. And I would listen to the lies that you would tell all night. Angel eyes, but you been giving me hell all night. I know the book that you would write is a tell some, not a tell all. Just to make sure you well off, you would sell all rights. Your ex think we beefing, is that man alright? That nigga can't even look at me, he fell off twice. And I'm back popping, I still remember the day I saw you. I was on your ass like back pockets. Niggas love to hate, but what is that stopping? So much shit I wanted to say, straight to your face. But you're so two-faced that I don't know which face. You're the reason we'll be going separate ways. You're the reason we cannot communicate. It's not the things you say, it's what you don't say. I'm not in your way, in your own way.
So I don't care how you're yelling at me.
How much I gotta spend for you to pipe down?
Pipe Down, Drake, cet extrait de son album Certified Lover Boy qui pourrait aussi être le titre de mon album. Voilà. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon...
Boum, 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 boum
Et oui, ce jingle mythique de la chaîne cryptée, c'est ce qui vous évoque la pop culture, Xavier Coste. Et pourquoi ce son plutôt que celui-ci?
Parce que j'ai eu du mal à retrouver un deuxième son pour l'émission. D'ailleurs, j'ai hésité à annuler l'émission parce que c'est la question la plus compliquée. Et puis, je me suis souvenu que j'avais vraiment découvert le cinéma avec Canal+. Et pas que aussi, j'ai découvert l'humour en regardant, je ne sais pas si vous connaissez, De Cone et Garcia.
Ah, oh, c'était ailleurs, magnifique, donc, magnifique, oui, malgré la présence de José Garcia.
Les avis divergents sur le
non,
sujet.
Non, mais non, pas du tout. Il y en a du tout neuf parfois. Alors restons en clair et passons à votre pop list. Nous vous avons demandé, Xavier, de choisir un livre, un film, une musique, une série. Votre livre, ces jours-ci, c'est Patience. C'est un roman graphique de Daniel Clowes. Charline, c'est pas le livre le plus joyeux, mais immense talent de Daniel Clowes. Et de quoi ça parle?
2012, Jack Barlow retrouve à son domicile Patience, sa petite amie enceinte assassinée. 2029, toujours hanté par le meurtre de Patience, Jack Barlow entend parler d'un homme qui aurait inventé une machine à remonter le temps.
Xavier, auriez-vous la patience de nous lire un extrait de Patience?
Et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements parce que je trouve que lire une BD, c'est toujours très, très casse-gueule. Et j'espérais qu'on ne me le demande pas.
Voilà, alors, c'est fait.
Je vais vous lire un petit extrait. Je me trouverai un cabanon dans la forêt. Je me nourrirai de ragondins à la broche et d'orties bouillies. Aucun contact avec personne. J'attendrai loin de tout, en m'efforçant de survivre jusqu'au jour J, histoire de mourir en paix.
Très bien.
Et en fait, c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de récitatifs, de voix off. Et ouais, c'est un auteur, Daniel Clowes, je trouve, qui a une façon d'écrire qui est assez subtile et intéressante.
Mm-hmm. C'est un livre auquel vous revenez régulièrement?
Oui, tout à fait, parce que c'est un livre tiroir. En fait, c'est un livre qui traite de voyage dans le temps. Donc déjà, ça, c'est un genre auquel j'aimerais beaucoup me confronter, mais ça implique de vraiment beaucoup relire son travail et ça demande une mécanique d'horloger.
Ouais.
C'est quelque chose qui me fascine, ouais, chez cet auteur notamment.
Peut-être une piste de travail
peut-être
dans le futur.
Ouais, certainement.
Il reste très elliptique, ce Xavier Coste. Pour le film, vous avez choisi Baiser volé, qui n'est pas le nom d'une production AB, mais le film de François Truffaut qui retrace les aventures d'Antoine Douanel, évidemment. Ah, Antoine Douanel.
Alors là, en l'occurrence, oui, Douanel de 24 ans, derrière les barreaux d'une prison militaire qui attend d'être enfin réformée. Libéré, il va dîner chez les parents de Christine Darbon, la jeune fille dont il est amoureux.
Mais non, c'est pas comme ça qu'on fait. Je vais t'apprendre quelque chose dont tu te souviendras toujours. Comment beurrer une biscotte sans la casser. Tu vois, tu prends deux biscottes, tu les mets l'une sur l'autre, comme ça. Et puis tu étales ton beurre. Et grâce à la biscotte du dessous, la biscotte du dessus ne se casse pas.
Oh, c'est trop bon.
Je t'apprendrai tout ce que je sais. Par exemple, le goût de la biscotte, et puis toi, en échange, tu m'apprendras ce que tu sais.
Hein? Oui, très bien.
Xavier Coste, vous êtes fan de Truffaut, vous aussi? Je ne parle pas de la jardinerie. Mais...
Les deux. Ouais. Les deux. Bah, c'est un réalisateur qui m'inspire beaucoup par son sens aigu de la narration. Mmh. Je trouve que ses films sont en plein de beaucoup de tendresse. Et aussi, comme moi, finalement, il n'aime pas les livres ou les films à suspense. Mmh. Et il aime les films de personnages. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait beaucoup de biographies. Moi, c'est vraiment c'est suivre un personnage qui m'intéresse, son cheminement intérieur. Et le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu, je m'en fiche parce que Truffaut a fait beaucoup de films dans lesquels il n'y a pas d'enjeu, oui, autre que de regarder Jean-Pierre Léaud. Oui. Et d'ailleurs, quand il a fait sa trilogie-là...
De suivre l'évolution de son personnage.
Complètement, et parce que j'ai vu beaucoup d'interviews de lui, et souvent il disait que le moteur pour faire un film, un nouveau film d'Antoine Douanel, justement, c'était le plaisir de tourner avec Jean-Pierre Léaud. Mmh. Et ça, je trouve que c'est une intention qui est pure, et qu'on ressent en tant que spectateur en voyant ces films.
Xavier Coste, passons du film aux séries, et direction le fin fond du Missouri, car pour la série, vous avez choisi Ozark, disponible sur Netflix. Charline, avant d'aller aussi loin, je veux que vous nous disiez de quoi ça parle exactement.
Marty Jason Bateman, conseiller financier de Chicago, blanchit discrètement de l'argent pour le compte d'un baron de la drogue. Mais son partenaire le trahit. Il se voit donc obligé de déménager avec sa famille au Mont Ozark. Mais, parce qu'il y a toujours un mais.
Monsieur Bird.
Bonjour.
Trevor Evans, FBI.
FBI? Qu'est-ce qui se passe?
Nous avons des raisons de croire que l'associé de votre mari a été assassiné. Quoi? Et si on arrêtait ce petit jeu? La fuite, le mensonge, vous n'êtes pas fatigué?
On a pris la décision de déménager en famille dans un endroit plus tranquille.
Maman, qu'est-ce qu'on fait ici?
Votre père blanchit de l'argent pour un cartel de drogue mexicain.
Quelqu'un va mourir.
On se détend.
Pourquoi j'ai ce curieux sentiment qu'on sait tous les deux que vous seriez mieux morts?
Oh là 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 là, Xavier Coste, vous feriez la même chose si vous aviez à blanchir 500 millions de dollars?
Je vous le dirai pas, sinon je pourrais pas réussir le
danger.
Si ça se trouve, je me retrouve dans cette série, mais je cache mon jeu.
Qu'est-ce qu'elle a alors, cette série Ozark?
Elle a une ambiance qui est, je trouve, extraordinaire. Déjà, c'est très bien filmé. Et aussi, il y a une ambiance visuelle qui est très riche. Ça me donnerait presque envie de copier cette histoire et d'en faire une BD. Parce qu'on a une maison qui est perdue dans la forêt, au milieu des pins. Et c'est une belle maison avec plein de baies vitrées. Et il y a toujours un danger permanent. C'est-à-dire que tout le monde voit les personnages de l'extérieur, etc. Et c'est vraiment, je trouve, une très belle série sur une petite chaîne qui monte Netflix.
Et la saison 4 arrive le 21 janvier.
Vous aimez bien les trucs un peu anxiogènes, j'ai l'impression, non? Regardez-moi dans les yeux, Xavier.
Ben, en fait, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, mais finalement, je pense que je suis sensible à la mélancolie. Et quelque chose de purement positif va me déprimer. Par exemple, vous me mettez un film de Noël où ça me donne le bourdon comme pas permis. Quoi.
On est deux.
C'est rassurant, je ne sais pas si c'est rassurant.
Donc, allez directement à des sujets qui ne se cachent pas.
Complètement, et puis tant qu'il y a une esthétique et un propos, c'est pas dérangeant. Après, j'aime pas quand c'est glauque pour être glauque, ou quand c'est dépressif pour être dépressif, ça m'intéresse pas.
Xavier Coste, nous avons parlé de musique en début d'émission, on va terminer avec de la musique, car votre morceau du moment c'est Ocean Full of Stars, The Dreaming of Ghosts. Et avant de l'écouter, je voudrais que vous nous expliquiez ce choix.
C'est deux musiciens qui font aussi beaucoup de bandes originales de séries et de films et ils ont une musique qui est à la fois qui incarne tout ce que j'aime en fait, qui est à la fois reposante et qui permet d'installer une vraie ambiance je vous laisse passer le morceau et puis je suis sûr que moi ça va me donner déjà envie de dessiner quoi.
C'est une très très bonne manière de lancer un morceau ça.
Ah ben,
bravo, c'est Xavier Coste, notre programmateur du jour aujourd'hui, le lauréat du prix BD Fnac France Inter avec 1984 qui nous invite à écouter Dreaming of Ghosts, Ocean Full of Stars. Beyond the whisper you breathe in and all the echoes of. I know this place. Ocean Full of Stars, cet océan plein d'étoiles. C'est signé Dreaming of Ghosts et c'est recommandé par Xavier Coste, notre invité du jour, slash lauréat du prix BD FNAC France Inter. Cadeau bonus, mon cher Xavier, je vous offre un nouveau numéro du Grand N'importe quoi, c'est la séquence d'Alexandre Verret.
Bienvenue. Si votre demande concerne un truc, dites un truc. Si votre demande concerne un machin, dites un machin. Pour toute autre demande, merci de bien vouloir être un petit peu plus précis, car j'ai pas que ça à foutre. Non mais sérieux.
N'importe quoi.
La flûte soprano qui est en tête de cette course, suivie de très près par le kazoo et l'harmonica. Et loin derrière, les clochettes qui tentent une accélération et oh là, qui rate le virage et finissent dans la tribune des accordéons. Quel bordel!
Moi, j'ai des sandales qui sont faites en peau de serpent à sonnette. Et quand je marche avec sa fille, et quand je cours avec sa fille, et quand je te botte les couilles avec sa fille, t'as rien vu venir.
Le grand n'importe quoi, c'est signé Alexandre Verret, c'est chaque semaine dans Pop. Voilà, merci mon cher Xavier Coste. Je rappelle que votre adaptation de 1984 est éditée chez Sarbacane et c'est à découvrir d'urgence, si ce n'est déjà fait. Merci de nous avoir rendu visite et bravo.
Et bravo.
Un grand merci encore, merci beaucoup.
Et merci Charline.
Mais merci à vous.
À demain et merci à toute l'équipe de Pop et à Ludovic Aslo qui était à la technique aujourd'hui. Demain, nouveau numéro de Pop Podcast avec nous la créatrice des Odyssées, Laure Grand Besançon. Mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop.